VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est 11h à Ouagadougou, midi à Bangui. Bienvenue à notre journal. Au Tchad, des dizaines de militaires et de policiers patrouillent à N'Djamena aujourd'hui, au lendemain des deux attentats suicides qui y ont fait 28 morts, dont 4 terroristes et 120 blessés. Le groupe islamiste nigérian Boko Haram est le suspect numéro 1. Voici quelques réactions recueillies dans la capitale tchadienne par André Kodmajingar de FM Liberté, notre station partenaire à N'Djamena.
Je suis abasourdi et indigné en même temps que des actes comme ça se produisent encore au XXIe siècle. C'est bien dommage que nos systèmes de sécurité laissent entrevoir des brèches pour que les terroristes puissent en profiter. C'est un acte à condamner et ça interpelle également le gouvernement à renforcer les dispositifs de sécurité parce qu'un marché public ou encore un bus de transport commun pourrait se comprendre aisément, mais dire que ça se passe dans des centres de formation des policiers et même à la direction générale de la police, c'est bien dommage. On connaît leur mode d'opération, ces terroristes. On dit souvent aussi que la vengeance est un plat qui se mange froid. Donc, ils ont planifié cela. Mais ce n'est pas ça qui va empêcher aux Tchadiens de soutenir les autres frères qui sont dans la même situation. Parce que nous avons toujours été combatifs et on le restera.
Vraiment, c'est un acte déplorable. Je souhaite toutes mes condoléances aux familles affligées. Et ce que je demanderai au gouvernement, doubler d'efforts pour sécuriser la population. Ce n'est pas une surprise. Tout est déjà préparé. Aujourd'hui, c'est le tour du commissariat. Et demain, peut-être que ça sera dans des écoles ou bien dans les marchés. Et ça va être catastrophe.
J'adresse comme ça mes condoléances à toutes les familles endeuillées. Je me sens vraiment en danger actuellement là où je suis. Il est grand temps que la police et les autres forces renforcent la sécurité parce que à chaque fois, on assiste à certaines fouilles en pleine circulation, mais cela n'est pas suffisant. Il va falloir commander des appareils performants pour pouvoir sécuriser la ville. Sinon, on sera vraiment frappé en encore à nouveau par d'autres attentats. Ça, c'est la négligence également de nos forces de l'ordre. Je ne peux pas imaginer qu'à l'entrée du commissariat ou bien au sein de l'école de police, un tel acte se produise. Il n'y a pas de mesure pour pouvoir contrôler ceux qui entrent au marché, par exemple. Il va falloir vraiment étudier un autre système de sécurité pour protéger la population.
Le président nigérian Muhammadu Buhari compte se rendre au Cameroun pour renforcer les efforts régionaux contre le groupe islamiste nigérian Boko Haram. Il l'a fait savoir hier à la fin du sommet de l'Union africaine à Johannesburg. M. Buhari a déjà visité le Niger et le Tchad et il avait reçu ses homologues tchadiens, nigériens et béninois au sommet du 11 juin à Abuja. Rencontre à laquelle le président camerounais Paul Biya n'était pas venu. Pour une analyse de la visite projetée par Muhammadu Buhari au Cameroun, Timothée Donangma a contacté le professeur Manassé Aboya Ndong de l'université de Douala.
C'est une nouvelle qui a été favorablement accueillie ici au Cameroun, dans une ville comme Douala, où les gens ont appris à mi-journée cette attaque arrogante de Boko Haram en pleine capitale tchadienne. L'annonce de la visite de Muhammadu Buhari au Cameroun est très favorablement accueillie comme une volonté manifeste du président nigérian de poursuivre la coopération régionale sur le plan militaire pour mutualiser les efforts de lutte contre la secte islamiste Boko Haram.
Le Cameroun et le Nigeria ont eu des relations assez compliquées, même face au phénomène Boko Haram, qu'en est-il?
C'est clair qu'on a semblé observer un refroidissement dans les relations entre le Cameroun et le Nigeria. Et notamment, les gens n'ont pas apprécié le fait que le président camerounais ait été absent à l'investiture du président Buhari le mois dernier. Mais quelques jours après cette investiture, le président camerounais a félicité son homologue nigérian à l'issue de l'élection de son compatriote à la tête de la BAD, ce qui indiquait malgré tout qu'il y avait un ballet diplomatique qui se déroulait loin des regards indiscrets, ce qui expliquait et justifiait expressément que le Cameroun et le Nigeria n'ont aucun intérêt à désarticuler les convergences qui doivent guider l'évolution de ces deux pays frontaliers.
Les deux pays ont eu par le passé des différends frontaliers qui ont été tranchés par la Cour internationale de justice. Qu'est-ce qui subsiste de ces contentieux?
Vous savez qu'à l'époque du déclenchement de la guerre Bakassi dont vous faites allusion, c'est le président Buhari qui était au pouvoir et les gens avaient peur qu'à l'issue de sa réélection, il pourrait remettre en cause les acquis de la sortie de guerre qui avait été amorcée à l'arrêt et puis les accords de Green Tree. Mais je pense que c'est un nouveau Boari qui est à la tête du Nigeria, qui n'entend pas revenir sur le passé et qui entend poursuivre la consolidation et la pacification des rapports entre les deux pays. Et vous savez très bien que l'un des artisans de ces accords était Olusegun Obasanjo, qui était l'une des personnalités qui a posé sa caution pour que Buhari revienne au pouvoir. Tout le monde essaierait, dans la perspective de ne plus revenir dans le passé, mais de poursuivre des convergences vers la consolidation des liens pacifiques entre les deux pays.
Le professeur Manassé Abouya Ndong de l'université de Douala.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
L'UA, l'Union africaine, a décidé d'envoyer au Burundi des observateurs des droits de l'homme et des experts militaires. L'organisation panafricaine a également exhorté le pouvoir burundais à reprendre le dialogue sur le calendrier des élections. Par la voix de son commissaire à la paix et à la sécurité de l'UA, Smaïl Chergi. Jean-Roger Bion.
Monsieur Chergi, qui s'exprimait à l'issue du 25e sommet de l'Organisation panafricaine à Johannesburg, a précisé que ses experts devront notamment vérifier le processus de désarmement des milices et autres groupes armés. Un contingent d'au moins 50 personnes est attendu. Celles-ci seront issues de la région et d'autres parties du continent en collaboration avec le gouvernement et les autres parties concernées. Le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine a fait savoir aussi que la date des élections doit être déterminée dans le consensus. Le Burundi est sous haute tension depuis un mois et demi. La candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat après 10 ans de pouvoir a déclenché le 26 avril un mouvement de contestation émaillé de violences qui ont fait une quarantaine de morts et poussé plus de 100 000 Burundais à fuir vers les pays voisins, terrorisés notamment par des miliciens fidèles au président.
Déception à la Cour pénale internationale, à l'ONU et à Washington après le retour à Khartoum du président soudanais Omar al-Bashir. Ce dernier a quitté le sommet de l'Union africaine à Johannesburg en dépit de l'injonction d'un juge sud-africain le sommant de rester en Afrique du Sud, Lionel Gaïma.
Le chef de l'État soudanais devait demeurer sur place jusqu'à ce que la justice détermine s'il devrait être arrêté ou pas en rapport avec son inculpation par la Cour pénale internationale de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le conflit du Darfour en 2003. Au lieu de cela, il a repris son vol pour Khartoum où il s'était crié à sa descente d'avion « Dieu est le plus grand ». Ce n'est pas la première fois que le président soudanais défie l'ACPI en se rendant à l'étranger. Les États-Unis ont déploré le fait que l'Afrique du Sud l'ait laissé regagner son pays. Nous sommes déçus qu'aucune action n'ait été prise, a déclaré le porte-parole du département d'État. Même son de cloche du côté du procureur adjoint de la CPI. Je pense que je peux m'exprimer au nom de la procureure en disant que nous sommes déçus. L'Afrique du Sud est un État parti qui a toujours fermement soutenu la Cour pénale internationale et de notre point de vue, son obligation était claire. Son obligation était d'arrêter le président El-Béchir.
Visite du président français en Algérie, François Hollande a salué hier le combat commun mené par Paris et Alger contre la menace djihadiste. Le leader français et le président algérien ont notamment évoqué la situation au Mali et en Libye et aussi le double attentat au Tchad, Eddy Issango.
Le président Hollande s'est rendu en Algérie à l'invitation de son homologue Abdelaziz Bouteflika. Selon l'AFP, le chef de l'État français a souligné à son arrivée à Alger les combats communs menés par l'Algérie et la France contre cet ennemi terrible implacable auquel nous avons porté des coups et encore récemment ces dernières heures. Une référence aux raids américains en Libye où aurait été tué Mokhtar Belmokhtar, l'un des chefs djihadistes du Sahel. À propos du Tchad, le président Hollande a déclaré lors d'une conférence de presse « Il n'y a pas de doute que Boko Haram est responsable et devra rendre compte de cette nouvelle horreur humaine ».
A noter concernant Mokhtar Belmokhtar que le groupe djihadiste libyen Ansar al-Sharia a démenti aujourd'hui qu'il ait été tué lors de la frappe américaine au sud de Benghazi la semaine dernière. C'est ce qu'annonce l'AFP. Par contre, le chef de la filiale d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, Nasir al-Wahshi a été tué par une frappe de drone américain la semaine dernière. C'est ce qu'annonce aujourd'hui Al-Qaïda. L'attaque a eu lieu vendredi dernier dans le port de Mukalla au Yémen. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Sous Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.